Deux scénarios pour une refonte du modèle économique en Nouvelle-Calédonie. L'autorité de la concurrence a avancé des pistes de réflexion dans une note publiée cette semaine. On y revient dans un instant puisque le président de l'autorité de la concurrence était notre invité ce matin sur Radio Rythme Bleu. Le feu en passe d'être maîtrisé à Dimbéa. Le secrétaire général de la mairie, Patrice Cuère, sera en direct dans ce journal pour faire le point sur la situation. J'ajoute par ailleurs que trois mineurs ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur cet incendie. En métropole, la CRS 81 à Cavaillon, décision du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau après l'incendie de quatre voitures de police, a priori par des dealers. Une action pour tenter d'intimider les forces de l'ordre qui luttent contre les trafiquants de drogue. Et puis enfin le sport, une excellente nouvelle pour Axel Raymond. Au-delà d'être devenu vice-champion du monde de force athlétique, le Calédonien a progressé de 30 kilos sur son total. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité, un coup d'œil au jeudi de l'économie Radio Rythme Bleu. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Vous consacrez ce magazine cette semaine à la relance économique des TPE.
Oui, comment réagissent les TPE, les très petites entreprises, face à l'effondrement de l'économie consécutif à la violence insurrectionnelle? Quelles sont les conséquences pour leur activité? Comment peuvent-elles se relancer? Ce sera le thème ce midi de ce jeudi de l'économie en compagnie de Ségolène Thomas, directrice régionale de l'ADIE en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, d'Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat, mais aussi de Manon Bénard, qui est coordonnatrice de projet à Initiative NC, et d'Émilie Olivier, la fondatrice du collectif d'entrepreneurs La Ruche. On se retrouve d'ici une demi-heure avec nos invités pour parler des TPE face à la crise.
Et cette question centrale, quelle refonte pour le modèle économique calédonien? Nous en avons donc parlé ce matin avec Stéphane Reterer, le président de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, qui était votre invité ce matin à 7h30, Elisabeth.
L'autorité de la concurrence qui vient de publier une note de 22 pages sur la refonte du modèle économique calédonien. C'est une contribution à la réflexion menée par le gouvernement avec son PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. C'est aussi une analyse basée sur la crise que l'on connaît depuis le 13 mai et qui a démontré les défauts et les limites de notre système économique qui était déjà très affaibli. Maintenant, il faut penser à l'après, déclare Stéphane Reterer.
La crise du 13 mai a été, comme certains disent, cataclysmique. C'est-à-dire concrètement, c'est que tout s'est effondré d'un coup. On avait prévu, c'était sur 2025 l'effondrement. Là, ça s'est effondré le 13 mai 2024. Donc il fallait accélérer la réflexion. On l'a fait et s'inscrire évidemment dans le cadre du plan de sauvegarde, de refondation, de reconstruction. On est encore, soyons clairs, pour les entreprises aujourd'hui, dans de la sauvegarde, dans de l'urgence. Et on le sera jusqu'en décembre, soyons clairs, à travers le chômage partiel et à travers le fonds de solidarité aux entreprises. Mais il n'empêche, le gouvernement a cette position, le Congrès a cette position, il faut penser après.
Dans sa note, l'autorité de la concurrence propose deux scénarios de développement économique, un modèle introverti et un modèle extraverti. Le premier, c'est celui que l'on connaît, celui de la protection de marché et de ses conséquences.
C'est le problème de la société calédonienne, c'est-à-dire qu'on a gardé des prix très très élevés par rapport, prenons sur les biens de consommation, par rapport à un pays qui est plus éloigné avec des coûts de structure, enfin des coûts de transport qui sont plus élevés que la Polynésie, c'est quand même un comble. Donc à un moment donné, il faut se poser la question du pourquoi. Alors, c'est pas la faute des protections de marché contribue, c'est la faute du protectionnisme. Protectionnisme, c'est beaucoup de choses, c'est des barrières réglementaires, c'est des barrières douanières, c'est un système normatif, c'est une société qui est sous-serre, qui est auto-centrée. Nous, on a parlé de modèle introverti par rapport à un modèle plus extraverti.
L'autorité de la concurrence qui formule plusieurs recommandations. La première, c'est une évaluation des protections de marché en Nouvelle-Calédonie, un audit à 360 degrés, indispensable, estime Stéphane Reterer, avant de renouveler éventuellement ces protections qui ont aussi leurs avantages.
Premier avantage, c'est que la valeur ajoutée qui est créée par une industrie, par une entreprise qui produit localement, est toujours supérieure à de l'importation. Donc c'est nécessaire, c'est une très bonne chose. Et le deuxième avantage, c'est que c'est créateur d'emplois, pas que. Il ne faut pas s'arrêter que sur l'emploi et sur l'investissement et la productivité. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Si on s'arrête au milieu du guet, il y a un problème. C'est-à-dire que concrètement, création de valeur ajoutée, emploi, et ensuite, il faut de la compétitivité, il faut des gains de productivité. Et il faut mettre, je dirais, les entreprises vers une trajectoire d'exportation. Et sur ce modèle-là, c'est pour ça qu'on veut une évaluation à 360 degrés. Le modèle était un peu calé. Et ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir le redémarrer pour qu'on aille vers cette stratégie d'exportation. Pourquoi? Parce que l'exportation, je dirais, c'est le fondement de la croissance. Donc si on veut retrouver de la croissance en Calédonie, avec la fin du nickel actuellement, il faut aller dans ce sens-là.
L'autorité de la concurrence propose donc de tout mettre à plat dans le cadre d'une évaluation et d'une rationalisation avec un pilotage précis des protections de marché. Mais son second scénario, c'est celui d'une ouverture spécialisation avec la création d'une politique industrielle.
créer une politique industrielle, c'est-à-dire en disant, ben voilà, telle entreprise, on va l'aider, protection de marché, hein, éventuellement, on va l'aider parce qu'elle rentre dans notre politique industrielle. Ce que veut la Calédonie, on va privilégier une filière parce qu'on y croit, parce que les experts, parce que les rapports, parce que tout le monde sait que cette filière, on prend l'exemple de la crevette, on peut le prendre n'importe quel exemple, dans le domaine agricole, agriculture, on y croit et on se donne les moyens. Et on se donne les moyens, ça peut justifier une protection de marché, parce qu'il y a une politique industrielle derrière. C'est ça l'ouverture spécialisation. C'est déjà identifier les filières, et on l'a déjà fait, on les connaît en Calédonie. Et ensuite mettre derrière une politique industrielle pour privilégier ces filières.
Avec cette note de 22 pages, l'autorité de la concurrence veut enrichir la réflexion et alimenter le débat. Une note que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son site. L'interview de Stéphane Rotherer est quant à elle disponible en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Et il sera aussi question de reconstruction la semaine prochaine lors du déplacement en Nouvelle-Calédonie du ministre chargé des Outre-mer. C'est ce qu'il a indiqué en réponse à une question du sénateur Georges Naturel, Elisabeth.
Le sénateur calédonien a remercié François-Noël Buffet de consacrer son premier déplacement à la Nouvelle-Calédonie et il a dressé le tableau d'un territoire qui traverse une crise politique, économique et sociale sans précédent et qui rentre dans son sixième mois de couvre-feu. Il a aussi exprimé le dilemme financier des maires qui doivent arbitrer entre leurs priorités, gérer des finances publiques dégradées et dans le même temps reconstruire les bâtiments publics détruits. Et Georges Naturel a interrogé le ministre chargé des Outre-mer sur les priorités du gouvernement.
Après les annonces du Premier ministre dans son discours de politique générale et dans la perspective de votre prochain déplacement sur place, pouvez-vous, monsieur le ministre, indiquer à la Haute Assemblée les actions prioritaires que le gouvernement entend engager au plus vite pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette crise. Enfin, comment le gouvernement compte être aux côtés des communes calédoniennes qui sont, ne l'oublions pas, des collectivités de la République ?
Dans sa réponse, François-Noël Buffet a indiqué que par son déplacement, il voulait témoigner aux Calédoniens de la solidarité nationale et il a rappelé les premières aides de l'État qui a géré l'urgence avec un apport d'ores et déjà de 400 millions d'euros et il a fixé deux axes à sa visite, la reconstruction et l'explication du report des provinciales.
L'objectif de ma visite porte aussi d'abord sur l'effort de reconstruction qui est absolument nécessaire, dans l'urgence, c'est-à-dire demain en réalité. Hein. Nos écoles, nos bâtiments publics, nos entreprises, il faut que maintenant cette reconstruction démarre. J'irai bien sûr pour cela. Et puis j'irai aussi pour que nous inscrivions ensemble dans la suite pour la Nouvelle-Calédonie sur une stratégie un peu plus de longue durée, j'allais dire, de reconstruction et de perspective économique. Enfin, je viendrai aussi pour expliquer à l'ensemble de nos compatriotes et aux élus, le fait que nous avons décidé de reporter les élections provinciales de la fin de l'année, d'expliquer pourquoi nous l'avons fait, les raisons pour lesquelles nous l'avons fait, de façon à ce que les choses sont extrêmement claires. Je tiens à cette occasion d'ailleurs à remercier et le président Larcher et le président Caner, puisque nous avons utilisé comme véhicule législatif la proposition de loi qu'il avait déposée pour pouvoir décider rapidement dans des délais qui sont extrêmement courts. Le débat aura lieu ici, je crois, le 23 octobre prochain, rapidement ensuite à l'Assemblée nationale, de façon à ce que là aussi la réponse soit rapide, mais elle est aussi législativement urgente.
Le Sénat va en effet se baser sur une proposition de loi déposée par le groupe socialiste pour reporter au 30 novembre 2025 les élections provinciales qui devaient à l'origine se tenir avant le 15 décembre 2024. François-Noël Buffet ajoute également qu'il rencontrera les maires à l'occasion de ce déplacement la semaine prochaine du 16 au 18 octobre.
À Radio Rythme Bleu, il est 11h39.
Direction d'Imbéa à présent, commune particulièrement touchée par les incendies ces derniers jours. Et nous sommes en ligne avec Patrice Cuer, secrétaire général de la mairie de d'Imbéa. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Où en est la situation à l'heure où on se parle ?
Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée puisque sur les trois départs de feu qu'on a connus hier, deux sont éteints, maîtrisés complètement. Et puis, il nous reste encore celui qui a commencé il y a 48 heures au Picochèvre, mais il est en cours de maîtrise avec une surveillance active des moyens là, de notre centre de secours et de la DGSR, et avec un hélicoptère qui tourne et il reste à maîtriser plusieurs points chauds, mais c'est dans bonne voie.
Alors on peut donc déjà faire un bilan de ces incendies. Il y a eu des dégâts matériels, il y a eu aussi de la destruction de brousse. Quel est le bilan chiffré qu'on peut faire de ces incendies ?
Bon, ben, prioritairement, malheureusement, c'est une villa qui a été touchée à la Dorade, où on a dû évacuer les habitants. Ça a donc engendré, c'est sûr, pas mal d'inquiétudes de la part des riverains. Donc je les remercie puisqu'ils ont participé aussi avec l'ensemble des moyens de secours à préserver les habitations. Ensuite, globalement, on est aux alentours de 100-120 hectares brûlés. Et aujourd'hui, on essaye de préserver donc une partie là au Picochef qui a une végétation endémique. Donc on fait tout pour pouvoir préserver cette partie-là, mais qui est quand même difficile d'accès, quoi.
La mairie a rappelé les règles en vigueur, notamment sur les feux, et a rappelé qu'il fallait faire preuve d'une grande vigilance en ce moment, notamment en raison du vent et de la sécheresse. On sait que 3 mineurs ont été arrêtés hier sur la commune. Ça veut dire que la piste criminelle est aujourd'hui clairement privilégiée?
Oui, il y a deux pistes. Hein. Sur le premier incendie, c'est un écobuage mal maîtrisé. Mais par contre, sur l'incendie de la Dorade, c'est vraiment un acte intentionnel. D'ailleurs, on a intercepté les trois protagonistes de ce départ de feu. Donc, ils ont été interceptés par notre police municipale et par la gendarmerie. Mais c'est vrai qu'en cette saison sèche, là, on a un arrêté sur la commune qui interdit l'utilisation des feux, que ce soit pour faire de l'écobuage, que ce soit pour faire des barbecues, etc. Là, vu les conditions météorologiques aujourd'hui, c'est quand même très, très dangereux aujourd'hui d'allumer un feu, quoi.
Eh bien, merci beaucoup Patrice Cuir d'avoir été avec nous, secrétaire général de la mairie de Dimbéa, juste après le point que vous avez pu faire avec les pompiers d'ailleurs. Merci beaucoup.
Merci.
On vous souhaite une bonne journée. Dans l'actualité judiciaire, un homme a donc été interpellé dans l'affaire de l'incendie de l'église du Sacré-Cœur de Thiers à Poindimier, des faits qui remontent au 14 août dernier, Léana Colombo.
Il s'agit d'un homme de 24 ans, originaire de la commune, et déjà condamné en 2021 pour vol. Il a été confondu par son ADN et a ensuite reconnu les faits devant la brigade de recherche de Connay. La perquisition réalisée à son domicile a permis de retrouver du matériel issu d'un vol par effraction, commis le 22 mai dernier à la mairie de Poindimier. L'intéressé a avoue avoir également brûlé dans la mairie la photo du président de la République Emmanuel Macron. L'homme sera jugé en comparution immédiate ce vendredi et est actuellement placé en détention provisoire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à la présence d'effectifs de gendarmerie en renfort de la police dans certains quartiers de Nouméa, comme c'est le cas par exemple à la Vallée du Tir? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier, alors que le comité de décolonisation de l'ONU est réuni à New York. 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il est utile que les partisans de la France s'expriment à cette tribune. Ils ne sont que 3% à penser que ça ne sert à rien. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 11h44, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des rats autour de chez vous? Pensez Formula 4D. N'attendez pas qu'ils évoluent à l'intérieur. On vous propose un traitement adapté pour les éradiquer. Plus d'infos sur formula4d.com.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
L'actualité politique nationale est à la veille de la présentation du projet de budget 2025 en Conseil des ministres. Michel Barnier se dit préoccupé par le manque de solidarité dans sa coalition. En cause, les dernières sorties de Gabriel Attal, désormais chef du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée. Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, l'ex-premier ministre qui était aux manettes entre janvier et septembre lorsque les comptes publics se sont dégradés de manière spectaculaire estime avoir des choses à dire à son successeur et des bonnes idées à défendre. Gabriel Attal s'est donc présenté devant la presse dans une salle de l'Assemblée nationale.
Nous avons des divergences sur quelques moyens. La crainte que nous avons déjà exprimée, c'est que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille.
Nous nous sommes engagé lors des législatives sur pas de hausse d'impôts, rappelle le désormais président du groupe EPR au Palais Bourbon, qui se montre hostile à l'idée du gouvernement Barnier de geler les retraites, même le temps de quelques mois, hostile également à toute hausse de la taxe sur l'électricité, hostile à une hausse des impôts pour les grands groupes. Mais pour quelle proposition? À ce stade, Gabriel Attal prône l'application de la réforme de l'assurance chômage qu'il avait lui-même suspendue, mais aussi d'autres mesures pour plus de décentralisation et plus de lutte contre la fraude sociale.
Gabriel Attal qui déclare toutefois, et je cite, « Le gouvernement pourra compter évidemment sur notre soutien dans la tempête ». L'actualité judiciaire est la lycéenne qui a giflé une professeure qui lui demandait de retirer son voile à Tourcoing sera finalement jugée le 11 décembre. La nuit dernière, elle a été convoquée en comparution immédiate et a demandé un délai pour préparer sa défense et son droit. La jeune femme ne conteste pas les coups portés à l'enseignante, mais elle nie toutefois avoir proféré des menaces de mort. Maître Oussama Daman regrette cette comparution immédiate. Écoutez.
C'est une jeune fille qui n'aurait jamais dû faire l'objet d'une comparution immédiate. C'est une procédure, je le rappelle, uniquement pour les personnes qui ont des antécédents judiciaires. C'est pas son cas. C'est un dossier extrêmement violent pour elle, parce qu'encore une fois, toute cette pression médiatique n'aurait jamais dû avoir lieu. Et maintenant, on sera présent au mois de décembre pour préparer son audience.
L'élève a donc été placé sous contrôle judiciaire et à l'interdiction de se rendre au lycée ou de rentrer en contact avec l'enseignante. Une femme blessée et choquée, selon son avocat, maître Éric Catelin-Denu.
On est sur une ITT de 3 jours, vous avez des rougeurs au visage, donc elle est marquée au visage, elle est marquée aux jambes parce qu'elle a reçu des coups de pied. Psychologiquement, elle est profondément choquée. Mais maintenant, les enseignants, on ne les respecte plus, on ne leur obéit plus. C'est ça qui est anormal.
Et demain, la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, se rendra dans ce lycée de Tourcoing pour apporter son soutien à la communauté éducative. 4 voitures incendiées à Cavaillon dans le Vaucluse, juste devant le commissariat. C'était hier soir pour nous. Il s'agissait de voitures de police, clairement identifiées et donc ciblées. Une attaque qui intervient, comme par hasard, si je puis dire, quelques jours seulement après des opérations place nette contre le trafic de drogue dans une cité locale. Écoutez le directeur interdépartemental de la police nationale, Emmanuel Desjarquerrouet.
C'est certainement une réaction des narcotrafiquants, puisque nous menons depuis plusieurs semaines des grosses opérations sur la cité du Docteur Haïm à Cavaillon. Voilà, avec des résultats très probants, notamment une place nette qui a eu lieu la semaine dernière avec beaucoup de gardes à vue, beaucoup de produits saisis. Et certainement que voilà, tout ça fait qu'il y a une recomposition et une animosité envers la police et envers son action.
Et pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, la guerre contre le narcotrafic doit se poursuivre avec force.
La première réponse, c'est l'envoi d'une section de la CRS 81 qui est basée à Marseille. Mais il va falloir une autre réponse, beaucoup plus ample. C'est une guerre contre le narcotrafic qu'il va falloir mener dans le temps, dans la durée et dans la plus grande fermeté, avec sans doute de nouveaux outils législatifs. Mais on voit bien que le narcotrafic est en train de gangréner une partie de nos territoires et il faut y répondre de façon la plus ferme.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait à Paris. J'ajoute que demain, Nicolas D'Aragon, le ministre délégué à la Sécurité, se rendra également dans la journée pour nous à Cavaillon. La lutte contre le narcotrafic dans la région maintenant et en Nouvelle-Zélande, la police a procédé à la saisie de 515 kilos de méthamphétamine en provenance des États-Unis. C'est la correspondance ce midi de Jean-Pierre Zajac.
Ces 515 kilos de méthamphétamine ont été découverts dans un chargement de lourdes poutres en acier dont certaines présentaient des irrégularités. Un examen au rayon X a effectivement révélé que la partie centrale de plusieurs d'entre elles recelait de larges quantités de méthamphétamine dont la valeur à la revente a été estimée à environ 38 milliards de nos francs. Le chargement illicite a été livré à un entrepôt proche d'Auckland où 5 individus ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils éventraient les poutres en question en vue d'en extirper leur contenu. 2 de ces délinquants étaient des ressortissants néo-zélandais, détenteurs de passeports kiwi, mais établis en Australie, qui s'étaient rendus à Auckland en vue d'y participer à la récupération de la drogue. Tous ont été inculpés pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à perpétuité. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et en Nouvelle-Calédonie, il est 11h passé de 50 minutes. On va marquer une pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire avec notamment les cars rails qui circulent de nouveau sur la côte Est.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et bientôt le retour à la normale pour le réseau rail. Dès ce vendredi sur la côte Est, il sera possible de prendre le bus, Léana Colombo.
Le SMTI annonce que la route entre Yengen et Wailou étant de nouveau accessible. Les usagers pourront bénéficier de nouvelles lignes. Elles desserviront Yengen, Point-Dimier, Touo, Ponérewin, Wailou, Puebo et Koné. Les précisions de Ludovic Lombard, le président du SMTI.
Ça fait plusieurs semaines que la réouverture de ces lignes de la côte Est était envisagée et on avait quand même pas mal d'entraves avec des dodanes qui étaient très très hauts et qui permettaient pas aux bus de pouvoir passer ou alors des carcasses qui étaient encore positionnées. Depuis le début de semaine, la situation a clairement évolué. Il n'y a plus rien qui obstrue le passage des bus à part quelques cornes qui sont placées par endroits sur le chemin. Donc l'ensemble de ces lignes sont réouvertes à partir de demain. Il y a uniquement les lignes de Thio et de Yate qui sont toujours fermées. On n'a pas pu ouvrir par rapport à la situation de blocage qui persiste à oui, et sur la transversale entre Boulle-Paris et Thio.
La liaison en direction de Thio ne peut pas se faire pour le moment en raison de la présence d'un poids lourd brûlé, positionné sur la route et bloquant le passage du bus. Dès que la carcasse sera levée, la liaison pourra reprendre. Malgré la réouverture de ces lignes, les bus ne retrouvent pas leur taux de fréquentation d'avant émeute du 13 mai. Ludovic Lombard, directeur du SMTI, explique qu'ils devront procéder à une réorganisation.
La première semaine, on avait à peine 10% d'emplissage. La deuxième semaine, on était entre 15 et 18. La troisième à 20-25. Donc là, ça augmente progressivement. On doit être aux alentours des 30-35% de taux de remplissage, mais ça reste très, très insuffisant par rapport aux dépenses qui sont engagées pour le maintien de ces lignes. On sait que les lignes comme Yengen sont très remplies. De manière générale, le taux de remplissage est aux alentours des 50% sur l'ensemble de ces lignes. Il n'empêche qu'il faudra qu'on regarde absolument le taux de remplissage pour qu'on mette le nombre de bus nécessaires aux usagers. Pour vous donner un exemple, sur certaines rotations, par exemple entre Temala et Nouméa ou entre Koumak et Nouméa, on a des bus qui sont vides, personne, donc on roule à vide, ou une ou deux personnes à bord. C'est exceptionnel, mais ça arrive, c'est certains jours de la semaine qu'on constate ce remplissage. Il est fort probable qu'on ait la nécessité de réduire le nombre de services où les jours sont très très peu fréquentés.
Et les horaires et les trajets disponibles sont à retrouver sur le site internet du rail.
Et avant les grandes vacances d'été, pensez à vérifier vos passeports, en tout cas leur validité, pour éviter toute mauvaise surprise. Et on va voir avec vous, Léana, toutes les démarches administratives à retenir.
Le passeport, un graal pour qui veut voyager, que cela soit un week-end en Australie ou pour rendre visite à de la famille en métropole, ce petit carnet est plus que nécessaire. Il faut donc s'assurer de sa date de validité. De plus, de très nombreux pays exigent que le passeport soit encore valable 6 mois après la date de sortie du territoire. La démarche de renouvellement est d'autant plus importante à effectuer en Calédonie, explique Jean-Luc Boursier, directeur du Conseil des élections et de la citoyenneté au Haut-Commissariat.
Il ne faut pas oublier qu'on est ici sur une île et on a même un phénomène de double insularité puisqu'il y a aussi des archipels. Et donc, on peut être amené à se déplacer sur l'Ifou, sur l'île des Pins. Et là, un document de voyage, un passeport, c'est essentiel. Mais même pour ce qui concerne ces îles-là, une carte d'identité suffit. Quand il s'agit maintenant d'aller en dehors de l'archipel, de voyager vers d'autres pays, c'est important de regarder la date de validité de son passeport. Tout le monde pense avoir un passeport qui est dans un tiroir, mais malheureusement, sa date de validité est dépassée. Et là, c'est très embêtant parce que si la date de validité est dépassée, bien entendu, on ne peut pas prendre l'avion. Tout à chacun peut être frappé par un problème dans une famille qui est éloignée de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde peut être, à un moment ou à un autre, avoir besoin d'un passeport pour partir dans les 8, 15 jours, peut-être même sur des délais plus courts.
La durée de validité d'un passeport délivré à une personne majeure est de 10 ans et celle d'un passeport délivré à un mineur est de 5 ans. Et si vous prévoyez déjà vos vacances de décembre, attention à ne pas vous faire surprendre par le délai d'obtention du passeport, rappelle Jean-Luc Boursier.
En règle générale, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, il faut 2 mois pour avoir un passeport, en comptant bien entendu le délai de prise de rendez-vous en mairie. Bien évidemment, si vous avez projeté d'aller en vacances à partir du 15 décembre prochain, il est largement temps maintenant de vous déplacer en mairie et de demander effectivement la délivrance d'un passeport, éventuellement son renouvellement. D'autant plus que c'est très simple, le renouvellement d'un passeport, c'est un justificatif de domicile, un timbre, une photo. Puis bien entendu, son passeport qui est à renouveler. Et si le passeport, il il a encore une validité de 7-8 mois, eh bien on le renouvelle. On ne prend pas le risque de se retrouver par exemple coincé à Singapour avec un passeport qui ne serait plus d'une validité au-delà de 6 mois. Donc c'est quand même très important d'avoir des documents qui sont valides.
Des dispositions à prendre d'autant plus en amont si vous habitez dans le Grand Nouméa. En effet, lors des événements du 13 mai, deux dispositifs de recueil de données biométriques de la mairie de Nouméa ont été brûlés. Vous pouvez déposer votre demande auprès de toutes les communes, quel que soit votre lieu de résidence. Et pour gagner du temps, il est possible d'effectuer une pré-demande en ligne sur le site internet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Bon, une bonne nouvelle, pas besoin de passeport pour profiter de l'ambiance de Tahiti. Aujourd'hui, il suffit de vous rendre au jeudi du centre-ville aux couleurs du Fénois. La culture polynésienne est à l'honneur pour cette nouvelle édition, Charlotte Coulson.
Et la place des Cocotiers était bien remplie ce matin. Entre les spectacles de chant et de danse traditionnelle, les vendeurs de salades tahitiennes et les artisans polynésiens, les visiteurs arboraient de large sourire. Un engouement dont se réjouit Manuia Changtai, présidente de l'association Tauaia et responsable de ce jeudi de Tahiti.
Notre thème que nous avons choisi cette année, c'est la joie de vivre. Et on le voit là, depuis ce matin, sur le visage de tout le monde. Très contente, très satisfaite de cet engouement du public. On n'attendait pas autant, mais on est content puisqu'on sait tous ce qui s'est passé. On avait un peu peur hier et puis finalement tout se passe bien et j'ai le sourire. Maruru Mete, une belle journée à tous.
Et vous l'avez entendu, le public était au rendez-vous et le sourire aux lèvres. Ce sont en tout 120 exposants qu'ils ont pu découvrir au centre-ville. Beaucoup de stands de nourriture avec la célèbre salade tahitienne, des vendeurs de bijoux décorés de la perle de Tahiti ou encore des tenues traditionnelles du Fénois. Certains visiteurs connaissent bien la culture polynésienne et d'autres la découvrent. On écoute ces quelques témoignages.
Bah, on aime bien Tahiti. Dès qu'on a appris ça, ma mère voulait venir. Quoi. Ouais, très contente. Ça fait du bien de revoir les gens et surtout revoir tous les commerçants.
On a vu les stands et on a vu le monde, la musique. Du coup, on est venu regarder ce qu'il y avait. J'aime bien, c'est beau et tout. Du coup, ça change un peu de sortir de la maison et tout.
Je suis jamais venu de ce côté-là du globe en fait. Donc le plus loin, c'est l'Asie. Donc là, la Polynésie, on découvre totalement en fait. C'est quelque chose d'intéressant de voir les couleurs. C'est coloré, c'est la fête. Les gens sourient, ce qui est bien aussi. Non, c'est vraiment intéressant de voir une culture qu'on ne connaît pas.
Les jeudis du centre-ville autour de Tahiti, un événement à retrouver jusqu'à 19h ce soir et l'animation phare de la mi-journée, le concours du plus gros mangeur de Fafaru. Rendez-vous à la place des Cocotiers dans quelques minutes.
Eh bien, c'est noté. Merci Charlotte Coulson. Il est 11h58. On marque une dernière pause avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine ? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une du sport ce midi, un Calédonien vice-champion du monde de force athlétique, Axel Raymond, a décroché l'argent en Afrique du Sud en catégorie Master 1, 93 kg. Ses résultats, 272,5 kg au squat, 172,5 kg au développé couché, 295 au soulevé de terre. Une performance qui restera dans la mémoire de Kenny Wen, son entraîneur.
C'est une grosse performance pour Axel et c'est aussi le résultat d'un entraînement intensif pendant 9 semaines. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 9 semaines, on a réussi à gratter pratiquement 30 kg sur son total. Donc, ce qui l'a emmené à réaliser 745 kg pour ces championnats du monde-là. À signaler qu'Axel s'est rendu à ces championnats du monde-là sans coach, sans coach en présentiel, donc c'était difficile de, on a fait avec, on a géré via Messenger, et c'était pas facile avec le décalage. Un titre de vice-champion du monde, c'est énorme pour nous, ça fait du beau mon cœur pour la discipline de la France athlétique.
À la fierté donc de l'entraîneur d'Axel Raymond, Kenny Wendt. En tennis, fin de l'aventure pour Gaël Monfils. Il a été sorti en 8e de finale du Masters 1000 de Shanghai. Il faut dire qu'il est tombé sur le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, qui rencontrera Thomas Machac au prochain tour. En quart, on assistera aussi à une belle confrontation entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev. Quant au Belge David Goffin, il retrouvera l'Américain Taylor Fritz. Et Jakub Mrnčić sera lui opposé à Novak Djokovic. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.